Chapitre 14. Qu'est-ce qu'une romancière populaire avait à voir avec la présidence? Auteur à succès, certes, mais même pas encore confirmé, et qui prenait clairement la direction de ne jamais l'être, vu le rythme auquel progressait son prochain roman. Dans son domaine, il y avait plus connu, et plus talentueux, aucun doute. Alors pourquoi elle? Zoé était confuse. Le ton de la voix du conseiller, ce sentiment d'urgence, de sérieux, alors même que la France, voire le monde, avait bien plus important à gérer avec l'apparition de la boule de lumière dans le ciel terrestre. En quoi Zoé Margot intéressait-elle ces gens? Elle s'était repassée mentalement l'histoire de ses romans pour vérifier qu'elle n'avait rien écrit de désobligeant sur le gouvernement. Mais ça n'était pas possible. Elle ne parlait pas politique dans ses écrits. Si on devait lui taper sur les doigts, ça ne pouvait pas être à cause de ses livres. Alors quoi? Erwan? Son ex-mari aurait-il fait quelque chose de malhonnête? Mais 4 ans et demi avaient passé depuis son décès. Ça semblait loin. Romy? Non, sa fille était discrète et sage. Zoé retournait la question dans tous les sens et ne trouvait rien. « T'y vas comme ça ?» fit Romy en la surprenant devant le miroir du dressing. « En jean et chemisier ?» Il a dit que c'était informel, pas de photo, pas de protocole. « Mais au moins un pantalon noir ?»« Pas envie. Je ne veux pas me déguiser, là au moins c'est moi. » »« C'est quand même weird. T'es sûr que c'est pas un pervers qui te tend à un guet-apens ?» J'ai reçu un mail de l'Élysée pour confirmer. Et ils envoient une voiture avec chauffeur. Je suis pas rassurée. Peut-être que je devrais venir avec toi. Non, il a dit que c'était confidentiel. Bien sûr, ça sent le coup tordu même. Arrête chérie, c'est pas le moment, je suis assez stressée comme ça. Un SMS d'un numéro inconnu l'informa que la voiture était arrivée. Ils sont là. Romy fit une grimace contrariée. Si t'es pas là à minuit, j'appelle les secours. Je dis que c'est la présidente qui t'a enlevée. Ça se trouve, elle a flashé sur toi. Zoé la gratifia d'un regard noir. Elle n'était pas d'humeur à plaisanter. Recule, lui ordonna sa fille pour la regarder en entier. Des chaussures à la coiffure. T'es top même. Casual, mais classe. Très bien les cheveux attachés. Et ferme un bouton du décolleté. Tu vas pas pour pécho. 3 minutes plus tard, le chauffeur en costume refermait la porte de la berline noire sous le regard inquiet de Romy qui restait sur le perron de la maison. Les rues bourgeoises du Vésinet défilèrent. Puis la 86, qui s'insinuait entre les immeubles de verre et d'acier des entreprises de la banlieue ouest. L'interminable tunnel de la 14, et ses embranchements sous la Défense, telle une mine de gobelins. Et Paris, via les beaux quartiers. Zoé descendait l'avenue des Champs-Élysées à l'arrière de la voiture aux vitres fumées, et se sentait à distance du monde, dans cet habitacle feutré qui sentait le cuir et le désodorisant. Elle était mal à l'aise, pas à sa place. Consciente déjà de vivre une existence plus que favorisée en exerçant une profession singulière, de gagner des sommes très confortables et de mener bon train dans un ghetto de riches, elle n'était toutefois pas à ce point détachée de ce qu'était le monde pour la plupart des gens. Et circuler ainsi lui donnait l'impression de ne plus en faire partie du tout. Un privilège. Et elle détestait cette idée. Ils quittèrent le bas des Champs et bientôt longèrent le palais de l'Élysée. Zoé n'en revenait toujours pas. Tout allait trop vite. C'était surréaliste. La voiture franchit les barrages de sécurité en un instant et entra dans la cour. Elle y était. Le cœur de Zoé battait plus fort. Elle souffla pour essayer de retrouver son calme et la porte s'ouvrit. Salut, visage sérieux, drapeau tricolore et européen, décor chargé d'histoire, Zoé enchaînait sans bien se rendre compte, guidée. Presque portée à travers les lieux, jusqu'à atterrir dans un salon privé où on lui indiqua une banquette pour patienter. Elle en avait presque la tête qui tournait. On ne la fit pas attendre longtemps. Un trentenaire au look faussement décontracté dans un costume sans cravate entra, regard transperçant, directif, suivi par un collègue, la dizaine du dessus. Celui-ci attira aussitôt l'attention de Zoé. Il ne ressemblait pas à un politicien, contrairement au premier. Pantalon beige, chemise mal repassée, les manches retroussées, lunettes qui lui donnaient un air d'intello alors que son physique était plutôt celui d'un sportif. Les cheveux un peu trop longs et sa manière de ne pas la fixer dès qu'il était entré. Il n'appartenait clairement pas à la cohorte présidentielle. Était-il lui aussi convoqué comme elle? « Merci d'être venu. démarra le plus jeune. Matteo Villon, je travaille au cabinet de la présidente. Deux autres personnes entrèrent aussitôt. Une brune du même âge, l'air évanescent dans une robe en mousseline imprimée de fleurs qui descendait jusqu'à toucher le sol, son visage contrastait avec le reste. Dur, ancré dans le réel. Le quatrième avait presque la cinquantaine, et lui, c'était une mousseline de cheveux blancs qu'il portait. Visage tiré comme un morceau de viande séchée. Des sillons plutôt que des rides encadraient sa bouche sans lèvres, et ses yeux d'un bleu glacé. Matteo Villon les accueillit d'un geste de la main. « Ah, et voici Anissa et Marik, des collaborateurs du cabinet. Vous devez vous demander ce que vous faites ici.
« C'est le moins qu'on puisse dire », répondit Zoé un peu vite.
Elle se sentait intimidée par cette attention braquée sur elle, par l'endroit, les circonstances. Cela ne l'empêcha pas de noter qu'on ne lui avait toujours pas présenté le quadra qui se tenait en retrait. Il semblait même l'avoir déjà oublié.
« Asseyez-vous », insista Matteo en tirant une chaise en face de la banquette.
Tous en firent autant, et il y eut un léger flottement étrange, comme s'il n'y avait pas de mots adaptés à ce qui devait suivre. Matteo prit son élan, fit claquer sa bouche et se lança.
« Je ne vais pas tourner autour du pot, Madame Margot. »«
Zoé, je préfère Zoé, ça me rend moins vieille. »
Elle sentit ses joues se colorer. « Non mais quelle tende! C'est ta répartie, ça ?»«
Très bien. Donc, Zoé, j'imagine bien sûr que vous avez suivi ce qui agite notre planète depuis 3 bonnes semaines désormais. »
Et la boule au-dessus de l'Atlantique?
Vraiment? Oh, avec l'intonation d'une question. Parce qu'il y a autre chose ailleurs. Le monde entier scrute la migration sexuelle des escargots en Picardie.
Villon ne sembla pas lui en tenir rigueur. Poker face. S'il la trouvait débile, il ne laissait rien paraître. Et il enchaîna.
Sphère, oui. C'est le nom qui lui a été donné sur le réseau social X. Et nous l'utilisons entre nous.
Ignorant là encore le quadra assis en retrait, Matteo alla chercher du soutien auprès de ses deux collaborateurs, qui, courageux politiciens, le soutinrent effectivement, mais seulement d'un bref acquiescement pour qu'il poursuive. En d'autres termes, Zoé lut un « démerde-toi, c'est ton job ».
L'UNESCO a décidé de coordonner une mission d'observation et d'analyse, expliqua Matteo. Mission qui va rassembler près de 150 personnes, dont une majorité de scientifiques. Chaque pays doit fournir ses experts, qui travailleront ensemble. La France s'est vue attribuer 22 places, dont 13 pour nos chercheurs. Bon, je dis UNESCO, mais c'est bien l'ONU qui pilote.
Zoé ne voyait toujours pas ce qu'elle fichait là. Elle n'était rien de tout ça, pas même en littérature, qui était de toute évidence une compétence largement nécessaire pour étudier un phénomène nouveau et unique à l'échelle de l'histoire humaine.
Déstresse, l'ironie te va mal.
C'est là que vous entrez en scène, déclara Anissa comme pour mieux l'accueillir.
Quoi? Moi?
Il doit y avoir une erreur sur la personne.
Zoé Margot, autrice de 2 romans publiés chez Albin Michel et vendus à plus de...
Marie, qui est sa voix aussi aride que son physique, lut ses notes pour se rafraîchir la mémoire.
2 millions d'exemplaires dans le monde. Bravo. Non, c'est bien de vous qu'il s'agit.
Matteo reprit la main. Les Nations Unies se sont accordées sur la nécessité de constituer une équipe aussi large que possible. Et il a été demandé, notamment à notre pays, de fournir également des participants qui ne soient pas des scientifiques, mais des personnalités reconnues pour penser différemment, pour porter sur la société et le monde un regard atypique. L'idée est qu'il ne faut rien exclure pour comprendre ce phénomène. Des femmes et des hommes qui n'ont pas le cerveau formaté par les règles académiques, par exemple, seront un atout précieux.
Mais je... Sans lui laisser le temps de trouver les mots, Matteo développa son argumentaire. Il y aura 350 scientifiques pour faire le boulot attendu. Eux auront la plus grosse part du travail. Et ils seront au cœur de la structure d'études, mais ça ne sert à rien d'en empiler davantage. En revanche, créer un laboratoire de pensée ouvert, où toutes les théories, même les plus folles, seront étudiées en parallèle, est intéressant. Romanciers, scénaristes, philosophes, théologiens, historiens, musiciens, il a été dressé une liste complète des besoins et chaque pays s'est vu confier un nombre de postes à pourvoir en ce sens. La France, respectée pour sa créativité, est celui qui a eu le plus gros quota.
Il fallait bien qu'on en reconnaisse quelque chose, lâcha Marik entre ses dents. Zoé restait ahurie. Elle n'arrivait pas à admettre
ce qu'il lui racontait. Ça n'avait aucune pertinence. En quoi ça pouvait bien la désigner ?
Écoutez, il doit y avoir...
Vous l'avez déjà dit, la coupa Marik sans délicatesse. Matteo enroba la suite d'un sourire qu'il essayait de rendre chaleureux, mais que Zoé considéra comme carnassier et manipulateur.
Nous vous avons sélectionné pour faire partie de ce groupe atypique au regard de vos écrits, madame... Zoé.
Vous devez vous tromper. Je suis madame tout le monde.
On vous a choisi justement parce que vous ressemblez à n'importe quelle femme. Et pourtant, vous avez quelque chose d'autre.
Ça, c'est très maladroit, souligna Zoé.
Matteo ne sembla pas réaliser la grossièreté de son raccourci. Il était sur sa lancée. Les gens se reconnaissent instantanément dans vos ouvrages. Vous pensez comme la plupart d'entre eux, mais ça n'est pas donné à tous de savoir le coucher sur le papier. Vous êtes capable de vous approprier le quotidien et la pensée de chacun en quelques mots. Vous sentez la société dans ce qu'elle a de plus basique, de plus brut. Vous êtes doué pour décrire les sentiments, les interactions émotionnelles.
Je suis sûre qu'il doit y avoir des tonnes de romancières plus célèbres, plus expérimentées et plus légitimes. Pourquoi moi ? Les autres ont déjà refusé, c'est ça ?
Pour la première fois, le sourire de Matteo parut franc.
Non ! Vous êtes la première. Enfin, pas la première personne du groupe que nous contactons, mais la première romancière. Je peux vous l'assurer.
Zoé soupira, dépassée. Elle n'avait plus les mots.
J'ai l'impression que vous m'attribuez une intelligence que je n'ai pas.
Anissa répliqua, froide.
Ce n'est pas votre intelligence que nous venons chercher, mais votre capacité à discerner ce qui fait de nous ce que nous sommes et comment nous interagissons. Votre esprit de synthèse des rapports humains.
Zoé avait envie de leur dire combien ils se trompaient, qu'elle serait incapable de les aider, qu'elle n'en avait pas le talent, mais ne savait pas par quoi commencer. Elle aperçut l'homme assis en retrait. Celui qui n'avait pas dit un mot. Il avait les mâchoires serrées. Sa jambe droite s'agitait nerveusement. Manifestement, il n'était pas très satisfait de la tournure des choses.
Zoé s'adressa à lui. « Et vous, vous êtes qui ?»
L'homme se raidit, surpris. Il ouvrit la bouche pour chercher ses mots, avant de répondre avec tant de désappointement que cela le rendit instantanément sympathique et fragile, donc normal.
Moi, je suis celui qui est responsable de votre présence ici aujourd'hui. Et je suis désolée.